Germaine de Staël, Delphine, partie 6, lettre 12. Monsieur de Lébancey à Mademoiselle d'Albémar. Ce 13 août, près de l'abbaye du Paradis. Je crois que mon projet a réussi. Cependant, vous en allez juger. Madame d'Albémar m'a particulièrement recommandé de ne vous laisser rien ignorer. J'ai été la voir hier matin. Léonce va terminer sa vie, lui ai-je dit. Sa résolution est irrévocablement prise. Voulez-vous le sauver ? Dieu, s'écria-t-elle, comment pouvez-vous me parler ainsi ? Ai-je un autre espoir que de mourir avec lui ? Peut-il en exister un autre ? Que prétendez-vous en faisant naître en moi des émotions si violentes ? Laissez-moi périr, résigné. Vous avez fait des vœux, repris-je, sans aucune des formalités ordonnées. Ils vous ont été surpris cruellement. Je suis fermement convaincu que les scrupules les plus religieux pourraient vous permettre de réclamer votre liberté si vous en aviez le moyen. Ce moyen, je vous l'offre. Il existe un pays, et ce pays, c'est la France, où l'on a brisé par les lois tous les vœux monastiques. Venez l'habiter avec Léonce, et, bravant l'un et l'autre d'absurdes préjugés, unissez-vous pour jamais à la face du ciel qui l'approuvera. « Que me proposez-vous ? » s'écria-t-elle avec un tremblement affreux. « Puis-je y consentir sans honte ? Le croyez-vous ? Serait-il possible ? » ?»« Vous souvenez-vous, lui dis-je, qu'il y a près d'un an, lorsque je vous écrivis sur la possibilité du divorce, vous me répondîtes que vous ne connaissiez qu'un devoir, dont ils dérivaient tous, celui de faire le plus de bien possible et de ne jamais nuire à qui que ce fût sur la terre. Eh bien, je vous le demande, qui faites-vous souffrir en brisant ces vœux insensés que le désespoir seul a pu vous arracher ? Et vous sauvez Léonce, lui pour qui vous avez pris la fatale résolution qui vous perd. Ne m'avez-vous pas avoué que l'amour seul vous l'avait inspiré ? Eh bien, que l'amour délie les nœuds funestes qu'il a formés. Quoi, me dit encore Delphine, vous croyez impossible de consoler Léonce, de fortifier assez son âme pour qu'il puisse consacrer sa vie à la gloire et à la vertu ? Ne vous embarrassez pas de mon sort, je me sens frappé à mort. Je sens que la nature va bientôt venir à mon secours. S'il veut vivre, je pourrai mourir en paix. Non, lui répondis-je, je ne dois pas vous le cacher. Rien ne peut engager Léonce à supporter sa destinée. Et lui-même, reprit Delphine, accepterait-il un parti si contraire à ses idées habituelles, à l'opinion qu'il a toujours profondément respectée ? Les grands malheurs, lui répondis-je, les malheurs réels, font disparaître les défauts qui sont l'ouvrage des combinaisons factices de la société. Les loisirs et l'agitation du monde irritent les peines de l'imagination, mais aux approches de la mort, on ne sent plus que la vérité. Léonce, prêt à périr, saisira avec transport le moyen secourable qui ferme le tombeau sous ses pas. Permettez seulement que je lui donne cet espoir. Laissez-moi, interrompit Delphine. J'ai besoin de quelques heures pour réfléchir sur l'idée la plus inattendue, sur celle qui bouleverse tout à coup mes esprits. Avant que le jour soit fini, vous aurez ma réponse. Je la quittai. Le soir, elle m'envoya la lettre qu'elle avait reçue de Léonce, avec la réponse qu'elle m'avait promise. Les voici toutes deux. Léonce à Delphine. Delphine, dans le jardin de ta prison, non loin des lieux où tu n'as pas refusé un sombre asile, même à ton ennemi, je veux te voir. Ne sois pas effrayée, j'ai besoin de quelques moments doux avant le dernier. Je ne veux pas cesser de vivre dans la disposition où je suis. il faut que ta voix m'ait attendrie. Il ne faut pas que mon âme s'exhale dans un moment de fureur. Rends-la digne du ciel vers lequel elle va remonter. Infortuné, veux-tu mourir avec moi, le veux-tu? C'est quelque chose qui ressemble au bonheur que de quitter la vie ensemble. Je te donnerai le poignard qu'il faut plonger dans mon cœur. Tu le sentiras, ce cœur, à ses palpitations terribles. Je guiderai le fer et ta main. Bientôt après, tu me suivras. Non, attends encore, je le veux. Mais qui oserait exiger de moi que je survécusse à cette rage du destin qui nous sépare lorsque tant de hasards nous réunissaient? Je reste seule dans cet univers où rien de ce qui me fut cher n'est plus auprès de moi. Qui maintenant a le secret de mes douleurs? Qui a connu ma vie passée? Pour qui ne suis-je pas un être nouveau? Faudrait-il recommencer l'existence avec un cœur déchiré? Je la supportais avec peine, même avant d'avoir souffert. Que ferais-je maintenant? Ah, Delphine, donnons un dernier jour à nous voir, à nous entendre. Il y a, crois-moi, beaucoup de douceur dans la mort. Je veux la savourer tout entière. Je me fais de ce jour un long avenir. Oui, tous les sentiments que l'homme peut éprouver se trouveront réunis, confondus. Et quand le soleil se couchera, la nature qui m'aura laissé goûter toutes les affections les plus tendres ne sera-t-elle pas quitte envers moi? Lorsque je te reverrai, je porterai déjà la mort dans mon sein. Vers la fin du jour, mes yeux s'obscurciront par degrés. Mais les derniers traits que j'apercevrai seront les tiens, Delphine. Demain, je te dirai tout ce que je pense dans cette situation sans avenir, sans espérance. Mon âme s'épanchera tout entière dans la tienne. Je goûterai les délices de l'abandon le plus parfait. Les liens de la vie seront brisés d'avance. Je n'attendrai plus rien d'elle qu'un dernier jour, une dernière heure d'amour passée près de toi. Delphine, ne crains rien. Demain te laissera un doux souvenir. Espère demain au lieu de le redouter. Que la mort de ton amant ainsi préparée te paraisse ce qu'elle est pour lui. Un heureux moment dans un sort funeste. Adieu. Delphine à Monsieur de Lébancé. Voilà sa lettre, monsieur, elle achève de me déterminer. Écrivez-lui vos motifs, ce qu'il décidera, je l'accepterai. J'aurais voulu pouvoir consulter une amie, Madame de Serlèbes, que la maladie de son père retient loin de moi depuis quelques jours. Son esprit n'égale sûrement pas le vôtre, mais elle est femme et son opinion sur les devoirs d'une femme doit être plus scrupuleuse. N'importe, je m'en remets à vous. Je n'ignore pas cependant à quel malheur je m'expose. Il se peut que Léonce condamne ma résolution et que je sois moins aimée de lui pour l'avoir prise. Je préférerais les tourments les plus affreux à ce danger. Mais il s'agit de la vie de Léonce et non de la mienne. Tout disparaît devant cette pensée. Je n'ai pu goûter un moment de repos depuis qu'un homme que je n'aimais point a péri pour moi, et je serai destinée à donner la mort au plus aimable, au plus généreux des hommes. Non, la honte, même la honte, du moins celle qui n'est point unie au remords, est plus facile à supporter que le désespoir de ce qu'on aime. Au fond de mon cœur, je ne me crois point coupable, mais tout m'annonce que je serai jugée ainsi, que j'offense l'opinion dans toute sa force, dans toute sa violence. Il suffira peut-être à Léonce de savoir que je n'ai pas repoussé un tel dessein pour cesser de m'aimer, et bien néanmoins qu'il sache que je ne l'ai pas repoussé. Si je lui deviens moins cher, il pourra vivre sans moi, je n'aspire qu'à sa vie. Tous les sacrifices sont possibles quand il s'agit de le sauver. Demain il veut mourir. Demain s'éteindrait dans mes bras cette âme héroïque et pure. La dernière fois que je l'ai vu, mes cris, mes pleurs l'ont ranimé, et dans quelques jours il serait de même étendu, sans mouvement, à mes pieds, de même, mais pour toujours. je me dégrade peut-être à ses yeux. Mais soit qu'il refuse ou qu'il accepte, il vivra. L'impression qu'il recevra de ce que vous allez lui proposer arrêtera son funeste projet. Si je détruis ainsi l'amour de Léonce pour moi, je saurai mourir, mais alors il me survivra. C'est tout ce que je veux. Écrivez-lui donc, j'y consens. Delphine. Après avoir reçu la lettre de Delphine, j'écrivis à l'instant à Léonce ce que vous allez lire. Monsieur de Lébancey à Monsieur de Mondeauville. Serez-vous capable d'écouter un conseil courageux, salutaire, énergique? Un conseil qui vous sauve de l'abîme du malheur pour élever Delphine et vous à la destinée la plus parfaite et la plus pure. Saurez-vous suivre un parti qui blesse, il est vrai, ce que vous avez ménagé toute votre vie, les convenances, mais qui s'accorde avec la morale, la raison et l'humanité? Je suis né protestant. Je n'ai point été élevé, j'en conviens, dans le respect des institutions insensées et barbares qui dévouent tant d'êtres innocents au sacrifice des affections naturelles. Mais faut-il moins en croire mon jugement parce qu'aucune prévention n'influe sur lui? L'homme fier, l'homme vertueux, ne doit obéir qu'à la morale universelle. Que signifient ces devoirs qui tiennent aux circonstances, qui dépendent du caprice des lois ou de la volonté des prêtres, et soumettent la conscience de l'homme à la décision d'autres hommes, asservis depuis longtemps sous le joug des mêmes préjugés et surtout des mêmes intérêts? Certes, la morale est d'une assez haute importance pour que l'être suprême ait accordé à chacune de ses créatures ce qu'il faut de lumière pour la comprendre et pour la pratiquer. Et ce qui répugne aux cœurs les plus purs ne peut jamais être un devoir. Écoutez-moi. Les lois de France dégagent Delphine des vœux que de fatales circonstances ont arrachés d'elle. Venez vivre sur le sol fortuné de votre patrie, et vous unissant à celle que vous aimez, soyez l'homme le plus heureux et le plus digne de l'être. Vous voulez mourir plutôt que de renoncer à Delphine, et l'idée que je vous présente ne s'est point encore offerte à votre esprit? Est-ce un époux qui vous enlève votre ami? Quel est le devoir véritable qui la sépare de vous? Un serment fait à Dieu? Ah, nous connaissons bien peu nos rapports avec l'être suprême. Mais sans doute il sait trop bien quelle est notre nature pour accepter jamais des engagements irrévocables. La veille du jour où Madame d'Albémare a prononcé ses vœux, toute son âme n'était-elle pas livrée aux plus cruelles incertitudes? Ses funestes vœux ne furent que l'acte d'un moment, suivi du plus amer repentir. Et toute sa destinée serait attachée à cet instant passionné qui l'entraîna comme une force extérieure dont elle ne serait en rien responsable. Hélas, d'un âge à l'autre, il y a souvent dans le même caractère plus de différence qu'entre deux êtres qui se seraient totalement étrangers. Et l'homme d'un jour enchaînerait l'homme de toute la vie. Qu'est-ce que l'imagination n'a pas inventé pour se fixer elle-même? Mais de toutes ces chimères, les vœux éternels sont la plus inconcevable et la plus effrayante. La nature morale se soulève à l'idée de cet esclavage complet de tout notre avenir. Il nous avait été donné libre pour y placer l'espérance, et le crime seul pouvait nous en priver, sans retour. Quand le sort des autres est intéressé dans nos promesses, alors, sans doute, des devoirs sacrés peuvent en consacrer à jamais la durée. Mais l'être tout-puissant et souverainement bon n'a pas besoin que sa créature soit fidèle aux vœux imprudents qu'elle lui a faits. Dieu, qui parle à l'homme par la voix de la nature, lui interdit d'avance des engagements contraires à tous les sentiments, comme à toutes les vertus sociales. Et si d'infortunés téméraires ont abjuré, dans un moment de désespoir, tous les dons de la vie, ce n'est pas le bienfaiteur dont ils les tiennent qui peut leur défendre d'appeler de ce suicide pour faire du bien et pour aimer. Je n'ai pas besoin de vous parler davantage sur la folie des vœux religieux. Vous pensez à cet égard comme moi. Mais si le malheur ne vous a point changé, la crainte du blâme agit fortement sur vous. Et lorsqu'à Zurich je voulais vous préparer à l'événement cruel qui vous menaçait, je vous vis tressaillir au moment où j'osais vous conseiller le mépris de l'opinion. Ce mépris sans lequel je prévoyais que le bonheur ne pouvait vous être rendu. Peut-être aussi éprouvez-vous de la répugnance à faire usage des lois françaises qui sont la suite d'une révolution que vous n'aimez pas. Mon ami, cette révolution que beaucoup d'attentats ont malheureusement souillée sera jugée dans la postérité par la liberté qu'elle assurera à la France. S'il n'en devait résulter que diverses formes d'esclavage, ce serait la période de l'histoire la plus honteuse. Mais si la liberté doit en sortir, le bonheur, la gloire, la vertu, tout ce qu'il y a de noble dans l'espèce humaine est si intimement uni à la liberté que les siècles ont toujours fait grâce aux événements qui l'ont amené. Au reste, ai-je besoin de discuter avec vous ce qu'on doit penser des lois de France? Jugez vous-même les circonstances qui ont accompagné les vœux de Delphine. La précipitation de ses vœux, les moyens employés par Madame de Ternant pour abréger le noviciat. Quel est le tribunal d'équité, dans quelque lieu, dans quelque époque que ce fût, qui ne relèverait pas Delphine de semblables engagements? Aucun sentiment de délicatesse, aucun scrupule de conscience ne s'oppose au parti que je vous propose. Il n'est donc question que d'un seul obstacle, d'un seul danger, le blâme de la plupart des personnes de votre classe avec qui vous avez l'habitude de vivre. Avez-vous bien réfléchi, mon cher Léonce, sur la peine que vous causera cet injuste blâme, quand il serait vrai qu'il fût impossible de l'apaiser? Heureux, le plus heureux des mortels dans votre intérieur, vivez dans la solitude et renoncez à voir ceux dont l'opinion ne serait pas d'accord avec la vôtre. Vous oublierez les hommes que vous ne verrez pas et vous transporterez ailleurs qu'au milieu d'eux votre considération et votre existence. L'imagination ne peut se guérir quand la présence des mêmes objets renouvelle ses impressions. Mais elle se calme lorsque, pendant longtemps, rien ne lui rappelle ce qui la blesse. Il y a dans presque tous les hommes quelque chose qui tient de la folie. Une susceptibilité quelconque qui les fait souffrir, une faiblesse qu'ils n'avouent jamais et qui a plus d'empire sur eux, cependant, que tous les motifs dont ils parlent. C'est comme une manie de l'âme que des circonstances particulières à chaque homme ont fait naître. Il faut la traiter soi-même comme elle le serait par des médecins éclairés si elle avait dérangé complètement les organes de la raison. Il faut éviter les objets qui réveillerait cette manie, se faire un genre de vie et des occupations nouvelles, ruser avec son imagination, pour ainsi dire, au lieu de vouloir la servir, car elle influe toujours sur notre bonheur, alors même qu'on l'empêche de diriger notre conduite. Je ne viens donc point, avec des lieux communs de philosophie, vous conseiller de triompher de vos inquiétudes sur tout ce qui tient à l'opinion, mais je vous dis d'adopter une manière de vivre qui vous mette à l'abri de ces inquiétudes. Votre amour pour Delphine doit vous rendre la solitude bien douce avec elle. N'admettez dans votre intimité que quelques amis exempts de préjugés et qui jouiront de votre bonheur. Vous voulez mourir, dites-vous? Mais n'est-ce pas immoler aussi Delphine? Elle ne vous survivra pas, vous n'en pouvez douter. Et vous renonceriez l'un et l'autre à la plus belle des destinées, à l'amour dans le mariage, parce qu'il existera quelques hommes qui vous blâmeront. Rappelez-vous, un à un, ces hommes dont vous redoutez le jugement? En est-il qui vous parusse mériter le sacrifice d'un jour, d'une heure de la société de Delphine? Et pour tous réunis, vous lui donneriez la mort? Vous pouvez généraliser d'une manière assez noble les sentiments qu'inspire la crainte de blesser l'opinion des hommes, mais représentez-vous en détail ce que vous redoutez. Une visite qu'on ne fera pas à votre femme, une invitation qu'elle ne recevra pas, une révérence qui lui sera refusée. Vous aurez honte de mettre en balance le bonheur et l'amour avec ces misérables égards de politesse que le pouvoir obtient toujours, quelque mal qu'il ait fait, chaque fois qu'il menace d'en faire plus encore. Ah, si votre conscience était d'accord avec ce que les hommes diraient de vous, chacun d'eux pourrait vous humilier, car votre cœur ne conserverait en lui-même aucune force pour se relever. Mais est-ce vous, Léonce, est-ce vous à qui l'amour et la vertu, les affections du cœur et le repos de la conscience ne suffiraient pas pour supporter la vie? Si vous vous trouviez tout à coup transporté sur les rives de l'Orénoque avec Delphine, vous y seriez heureux, parfaitement heureux. Eh bien, vous avez de plus les plaisirs et les jouissances que la fortune et les arts de la civilisation peuvent donner. Serait-il possible que des êtres qui n'ont pour vous aucun genre d'attachement, des êtres qui emploieront un quart d'heure de leur journée à vous blâmer, mais qui n'en auraient pas consacré autant à vous rendre le plus important service, serait-il possible qu'ils se plaçassent entre Delphine et vous et vous empêchassent de vous réunir? Ils seraient bien étonnés, Léonce, des sacrifices que vous leur feriez, ces redoutables censeurs. Ils seraient bien fiers d'avoir blessé de leurs petites armes un caractère qu'ils croyaient eux-mêmes au-dessus de leurs atteintes. Votre sang, celui de Delphine, coulerait non pour l'amour, non pour le remords, mais pour les frivoles discours d'une telle société, de tels cercles de femmes, parmi lesquelles vous ne daigneriez pas choisir une amie, mais à qui vous croyez devoir immoler celle que le ciel vous a donnée dans un jour de munificence. Léonce, j'ai réduit votre désespoir à son unique cause. Désormais, il ne peut plus en exister d'autre. J'ai dégradé dans votre esprit jusqu'à votre douleur. Repoussez les fantômes qui pourraient vous intimider encore. Regardez le ciel, revoyez la nature, parcourez pendant quelques heures les montagnes qui nous environnent. Considérez la terre de leur sommet et dites-moi si vous ne sentez pas que toutes les misérables peines de la société restent au niveau du brouillard des villes et ne s'élèvent jamais plus haut. Croyez-moi, les rapports continuels avec les hommes troublent les lumières de l'esprit, étouffent dans l'âme les principes de l'énergie et de l'élévation. Le talent, l'amour, la morale, ces feux du ciel ne s'enflamment que dans la solitude. Léonce, vous pouvez être heureux dans la retraite, vous le serez avec Delphine. Vous êtes tous les deux pleins de jeunesse, d'amour et de vertu, et vous formez le projet d'anéantir tous ces dons avec la vie. Dans les beaux jours de l'été, sous un ciel serein, la nature vous appelle, et la méchanceté des hommes vous rendrait sourd à sa voix. L'intention du Créateur ne se manifeste qu'obscurément dans toutes ces combinaisons de la société, que les passions et les intérêts ont compliquées de tant de manières. Mais le but sublime d'un Dieu bienfaisant, vous le retrouverez dans votre propre cœur. Vous le comprendrez au milieu des beautés de la campagne. Vous l'adorerez au pied de Delphine. Mon ami, c'en est assez. Votre cœur doit s'indigner de mon insistance. Delphine sait le conseil que je vous donne. Delphine l'approuve. C'est aux femmes, peut-être, qu'il est permis de trembler devant l'opinion. Mais c'est aux hommes, c'est à Léonce surtout qu'il convient de la diriger ou de s'en affranchir. Henri de Lébancé. On porta cette lettre à M. de Mondeville. Il resta 3 heures enfermé, depuis le moment où elle lui fut remise. Enfin, après ce temps, il donna sa réponse à mon domestique d'un air calme mais sérieux. Il ne me fit point demander. Il défendit à ses gens d'entrer dans sa chambre le reste de la soirée. Voici cette réponse. Monsieur de Mondeville à Monsieur de Lébancé. Delphine a donné son consentement à votre proposition. Je l'accepte. Elle change mon sort. Elle change le sien. Nous vivrons et nous vivrons ensemble. Quel avenir inattendu! Demain devait être mon dernier jour. Il sera le premier d'une existence nouvelle. Delphine, enfin, sera donc heureuse. Adieu, mon ami. Je vous dois la vie. Je vous dois bien plus, puisque vous croyez que Delphine ne m'aurait pas survécu. Achevez de terminer les arrangements nécessaires à notre départ et à notre établissement. Je me sens incapable du tout, après de si violentes secousses. Léonce de Mondeville. Dans les premiers moments, j'étais parfaitement content de cette lettre et je la portais plein de joie à Delphine. Elle la lut d'abord vite, une seconde fois lentement. Puis, me la remettant, elle me dit « Le parti qu'il prend lui coûte cruellement. Examinez quelle est sa première pensée, le consentement que j'ai donné à ce parti. Et plus loin, il espère que je serai heureuse. » Dit-il un seul mot de lui. Et cette manière de vous charger de tous les détails, n'est-ce pas une preuve qu'ils lui sont tous pénibles? Et bien d'autres nuances encore. Mais il vivra, l'impression est faite, il vivra. Mon ami, ajouta-t-elle, ne terminez rien. Je veux seul conserver la décision de mon sort. J'obtiendrai de Madame de Ternant que ma douleur fatigue et qui redoute le ressentiment de Léonce, la permission d'aller prendre les eaux de Baden près de Zurich. L'état de ma santé motive cette demande. Elle ne me sera point refusée. Je serai seule avec Léonce. Nous causerons librement ensemble, et, quoi qu'il arrive, je l'aurai fait du moins renoncer au funeste projet qui menaçait sa vie. Voilà, mademoiselle, dans quelle situation se trouvent maintenant les deux personnes du monde qui mériteraient le plus d'être heureuses. J'espère que pendant le séjour de Madame d'Albémare à Baden, ses inquiétudes et les peines de Léonce se dissiperont entièrement. Je leur ai donné tous les secours que l'amour peut recevoir de l'amitié. Leur sort maintenant ne dépend plus que d'eux seuls. C'est ici que commençait l'ancien dénouement de Delphine. Je remplis les intentions de ma mère en y substituant celui qu'on va lire tel que je l'ai trouvé dans ses manuscrits. Mais comme l'ancien dénouement contient des beautés que l'on peut admirer, indépendamment de leur liaison avec le reste du tableau, je l'ai placé en variante à la fin de ce volume. Note de l'éditeur. La lettre de Léonce à M. de Lébancé donna, comme on le voit, beaucoup d'inquiétude à Delphine. Cependant, l'espoir de s'unir à Léonce lui causait tant de bonheur qu'elle écartait, sans s'en apercevoir, tout ce qui pouvait troubler une impression si douce. Elle résolut cependant de ne prendre aucun parti avant 2 mois et de passer ce temps avec Léonce aux eaux de Baden. Le mauvais état de sa santé et la crainte qu'avait Madame de Ternant de rien refuser à Léonce rendaient facile pour elle d'obtenir la permission de s'absenter pendant quelque temps. Elle prit donc une maison de campagne assez solitaire auprès de Baden, et c'est là qu'elle revit Léonce. En se retrouvant, ils éprouvèrent un sentiment de bonheur qui s'exprima par beaucoup de larmes. Je ne sais s'il existait, au fond du cœur de l'un et de l'autre, des pensées pénibles, si la délicatesse de Delphine lui reprochait de rompre ses vœux, et si Léonce pressentait confusément ce qu'il éprouverait, lorsque le monde saurait la résolution de Delphine et la sienne. Mais tous les deux évitaient de se parler sur leur avenir, et semblaient goûter le présent en repoussant la crainte et même l'espérance. À Bellerive, Léonce souhaitait avec fureur de posséder celle qu'il aimait. Dans la solitude près de Baden, il ne se serait pas permis un témoignage d'amour qui aurait pu faire croire à Delphine qu'il n'était pas déterminé à l'épouser. Ses manières avec elle étaient tendres et respectueuses. Il tombait souvent dans de profondes rêveries. En la regardant, ses yeux se remplissaient de pleurs. Quand Delphine lui adressait quelques paroles sensibles, et souvent même aussi quand elle paraissait calme et heureuse, Léon s'éprouvait une émotion qui semblait autant appartenir à la mélancolie qu'à la joie. Ils lisaient ensemble, ils faisaient de la musique ensemble, ils éprouvaient chaque jour davantage que leur esprit et leur âme étaient parfaitement en harmonie. Cependant, il y avait un point par où leurs cœurs ne se touchaient pas, et d'un commun accord, ils évitaient ce qui pouvait le leur faire sentir. Delphine était inépuisable dans la solitude. Elle embellissait de mille manières cette existence idéale que l'imagination et l'amour peuvent rendre si animée et si douce. Elle savait trouver dans les poètes, dans les ouvrages dramatiques, ces morceaux qui appartiennent aux plus heureux moments de l'inspiration et font éprouver à l'âme la délicieuse sensation de l'enthousiasme, le pur sentiment de l'élévation. Ils sont en petit nombre, ces vers délicieux ou ces pages sensibles qui répondent parfaitement à nos impressions secrètes et développent en nous une existence nouvelle. Il suffit d'un mot froid ou déplacé pour nous tirer tout à coup de cette extase du cœur qui fait oublier le reste du monde. Mais quand l'émotion est complète, quand rien n'en détourne, et que l'on peut admirer de toute la puissance de sa sensibilité, quel bonheur de faire partager cette impression à ce qu'on aime, de pleurer près de lui, de voir son attendrissement, de sentir sa main pressée par la sienne, d'être averti enfin, par les plus douces impressions, que le même sentiment remplit deux âmes à la fois, et que si les portes du ciel s'ouvraient dans cet instant, elles y entreraient ensemble. Léonce et Delphine passaient de la poésie à la musique, mystérieuse puissance qui jette dans le vague de nos pensées, et nous plonge quelquefois dans une rêverie toute céleste. Il semble que c'est au son de la musique qu'on voudrait passer de ce monde dans une meilleure vie. Il semble qu'il y a des secrets de notre nature que notre esprit ne peut découvrir et qui nous sont comme indiqués par l'exaltation qu'inspire la musique. Et s'il nous arrive souvent d'éprouver cette exaltation dans la solitude, quelles paroles pourront la peindre quand elle est partagée par ce qu'on aime ? Delphine, en jouant de l'harpe, en écoutant Isaure, qu'un maître habile accompagnait, savait Léonce près d'elle. Elle se sentait regardée par lui, environnée de son intérêt protecteur. Elle éprouvait ce repos délicieux qu'on ne peut goûter que quand le cœur est parfaitement satisfait. Sa santé était moins bonne qu'autrefois, mais cet état de faiblesse ajoutait au charme de sa situation. Quand il lui venait quelques inquiétudes sur les dispositions futures de Léonce, sur le bonheur qu'il goûterait lorsqu'il serait uni avec elle, l'idée confuse que peut-être elle ne vivrait pas longtemps amortissait ses inquiétudes. Un nuage couvrait ses craintes et laissait à la félicité présente toute sa vivacité. On s'étonnera peut-être que Delphine, dont l'esprit était si pénétrant, ne chercha point à découvrir l'avenir avec certitude. Mais qui n'a pas éprouvé cette sorte d'aveuglement quand, quelquefois, Le bonheur présent avait une grande force. Ne se fait-on pas quelquefois illusion jusqu'au moment du départ sur la douleur même de la séparation? Tant que l'on voit l'objet qu'on aime, on n'a pas l'idée de l'absence, et l'imagination, ébranlée par le cœur, est tantôt follement inquiète, tantôt follement rassurée. Léonce et Delphine se promenaient ensemble dans ce beau pays où la nature est si poétique. Ils en sentaient les merveilles avec délice. Quelquefois, ils s'arrêtaient pour considérer les accidents des nuages au milieu des montagnes. Ils écoutaient le vent, ils regardaient tomber les torrents et trouvaient je ne sais quel charme dans le frémissement qu'inspire une nature sombre, dans le besoin qu'elle donne de s'appuyer l'un sur l'autre et d'animer le désert par nos sentiments et nos espérances. Quelquefois, il échappait à Léonce de dire « Oh, que la nature serait belle si le souvenir des hommes ne nous y poursuivait pas !» Et il parlait avec amertume de la société. Delphine exprimait des sentiments plus doux. Elle se sentait heureuse, son cœur était plein d'indulgence. « Qui peut, disait-elle à Léonce, connaître et mesurer les diverses circonstances qui disposent de la conduite et des opinions des hommes. Je pardonne beaucoup, par exemple, à ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. On ne sait pas quel ravage le malheur produit dans le cœur. Je ne suis sévère que pour la prospérité, et c'est bien rarement qu'on la rencontre. Il y a tant de souffrances cachées au fond de l'âme. Mon ami, il faut beaucoup plaindre, car la plupart des torts sont précédés par de grandes douleurs. Oui, dit Léonce en soupirant, mais pourquoi? Puis il s'arrêta et voulut rassurer Delphine, comme s'il lui eût confié ce qui l'occupait. Elle le regarda avec étonnement, un sentiment de terreur s'empara d'elle. Léonce le vit et le dissipa, car il aimait, car il était aimé, et rien ne résiste à cette magie. Delphine était véritablement fascinée par l'amour. Après 2 années de peine, elle avait tellement besoin d'être heureuse qu'elle rejetait loin d'elle tous les doutes, comme cette mère qui répétait sans cesse pendant la maladie de son enfant. « Il ne mourra pas, non, il ne mourra pas, car Dieu sait que je ne pourrai pas le supporter. » Léonce reçut une lettre d'un de ses amis émigrés qui le priait d'aller le trouver à son passage à Lausanne. Delphine ne put voir Léonce s'éloigner même pour peu de jours sans éprouver une peine très vive. Peut-être craignait-elle d'avoir du temps pour réfléchir et pour approfondir ce qu'elle ne voulait pas s'avouer. Mais elle versa beaucoup de larmes avant de le quitter. Et, descendant pour l'accompagner jusque sur le seuil de la porte, elle répéta « Ô mon Dieu, protégez-nous, bénissez-nous. » Léonce s'arrêta, prêt à monter à cheval, et lui demanda avec inquiétude quel sentiment lui inspirait cette prière. « Aucun qui doive vous alarmer, lui dit-elle, mais quand le cœur est plein d'affection, ne faut-il pas prier Dieu pour ceux qu'on aime ? Nos plus vifs sentiments ont si peu de puissance. Comment ne pas frémir en se séparant si l'on n'en appelle pas au secours du ciel ? » Léonce écrivit à Delphine pendant son absence, qui se prolongea quelques jours. Ses lettres étaient tendres mais courtes. Il donnait toujours un prétexte pour les abréger. Il était aisé de voir qu'il craignait de développer ses sentiments. Les impressions qu'on éprouve se trahissent plus facilement encore, peut-être, dans les lettres que dans la conversation. La présence de la personne qu'on aime vous attendrit toujours quand vous lui parlez. Mais séparé d'elle, ce que vous écrivez appartient à vos sentiments les plus profonds et les plus habituels. Si vous aimez parfaitement, si vous êtes dans une situation simple, vous êtes inépuisable en expressions passionnées. Mais s'il faut expliquer des combats, modifier des sentiments, on a peur des mots dont on se sert, des paroles qui vont prendre un caractère de fixité, qui seront relus 20 fois et dont la pression profonde ne pourra peut-être plus s'effacer. Delphine, en recevant les lettres de Léonce, éprouvait d'abord une sensation très pénible. Mais comme il se servait cependant des mêmes termes de tendresse, elle se disait que ces lettres prouvaient sa sécurité et que l'amour, certain d'obtenir ce qu'il souhaite, ne pouvait pas avoir le même langage que la passion agitée. Elle relisait ses lettres, elle cherchait, dans une expression contenue, les trésors de sentiments dont son cœur avait besoin. Elle retardait enfin de tous ses efforts ce cruel moment où l'on commence à juger ce qu'on aime, à connaître avec précision le degré de sentiment que l'on inspire. Léonce, cependant, n'était pas moins amoureux de Delphine. Elle lui était aussi chère que jamais. Mais il frémissait à la pensée de l'effet que produirait dans le monde son mariage avec une femme qui rompait ses vœux, quittait l'état de religieuse et s'appuyait de lois que l'opinion n'avait point encore sanctionnée pour faire une démarche si hasardée. Il n'avait osé parler de son projet à aucun des amis qu'il avait rencontrés à Lausanne. Mais il avait essayé, dans la conversation générale, de mettre en avant quelques thèses qui pussent les engager à montrer leur manière de voir, et tous ses essais avaient été les plus malheureux du monde. Ses amis quittaient la France par haine des principes qui auraient pu favoriser la rupture des vœux, et tout ce qu'il disait, trop d'accord avec les idées de Léonce, lui faisait souffrir 1000 morts. Il revint à Baden, plus décidé que jamais à se séparer entièrement du monde. Il se flattait encore que s'il ne rencontrait personne qui ne lui parlât de sa situation, il parviendrait à oublier ce que les autres en pourraient penser. Mais tous ces combats qui se passaient en lui-même remplissaient son cœur de tristesse, et il revit Delphine sans que cette tristesse fût dissipée. Elle n'osa pas l'interroger sur le sentiment qui l'occupait, et gardant Isaure auprès d'elle, elle évita de rester seule avec lui. Isaure voulait fêter le retour de Léonce. Elle avait préparé pour le lendemain, avec quelques-unes de ses petites compagnes, dans un bosquet du jardin, des fleurs, de la danse et de la musique. Delphine ne s'opposa point au désir d'Isaure et conduisit vers le soir Léonce près des lieux que sa petite amie avait entourés de guirlandes. Léonce éprouva d'abord un sentiment d'inquiétude sur cette fête. Il craignait ce qu'Isaure pouvait dire. Il craignait sa propre émotion. Enfin, il avait au fond du cœur un malaise qu'il parvenait à cacher, lorsque rien d'inattendu le surprenait, mais qui lui faisait craindre vivement tout ce qui pouvait troubler son âme. Cependant, la grâce charmante d'Isaure, sa gaieté, la simplicité de ses chants, qui n'exprimaient que la reconnaissance, le calme et le bonheur, tout ce qu'il y avait de champêtre et de paisible dans sa petite fête, éloigna par degrés de la mémoire de Léonce les souvenirs importuns de la société. Et il se livra sans arrière-pensée aux douces émotions qu'il éprouvait. Au milieu de cette fête et dans le moment où il regardait son ami avec le plus d'amour et d'espoir, deux instruments à vent, d'une justesse et d'une beauté parfaite, se firent entendre à quelque distance, et les petites filles elles-mêmes suspendirent leur danse pour écouter ces sons si doux et si mélancoliques. « Pourquoi, dit Léonce à Delphine, mêler aux joies de l'enfance des impressions d'une nature si sérieuse ?» Delphine ne répondit rien, et les instruments continuèrent à jouer la complainte de Marie-Stuart, air écossais de la plus touchante et de la plus noble simplicité. Léonce, profondément ému, répéta encore, avec un accent douloureux, « Delphine, pourquoi des larmes au milieu du bonheur? Vous me faites mal, bien mal. » Léonce, lui dit-elle alors, « J'ai voulu attacher mon souvenir à cet air. Dans quelque lieu du monde que vous l'entendiez, je veux qu'il vous rappelle Delphine. » Grand Dieu, reprit-il avec force, est-ce que vous vous imaginez que nous serons jamais séparés? Que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Et il l'entraîna loin du jardin et de la fête. Ils se trouvèrent ensemble dans le bois qui environnait leur maison, près d'une salle de verdure où les habitants de Baden avaient coutume de se réunir. Delphine gardait le silence et les vives prières de Léonce ne pouvaient pas obtenir d'elle une seule réponse. Elle marchait appuyée sur lui. Elle voulait parler, mais elle frémissait de tout ce qui pouvait naître du premier mot et prolongeait le vague du silence aussi longtemps qu'elle pouvait. Tout à coup, ils entendirent dans le lointain une marche vive et animée. Et, s'approchant pour l'écouter, ils virent passer des jeunes filles qui ramenaient de l'église une charmante personne qui venait de se marier avec l'homme qu'elle aimait. Léonce et Delphine les avaient entendues nommer. Ils les avaient vues passer une fois et les reconnurent à l'instant. Une émotion inexplicable s'empara de tous les deux au même moment. Ils s'approchèrent de la salle de danse où se rendait la joyeuse troupe et ils contemplèrent longtemps le jeune homme et la jeune femme, qui étaient l'image du plus parfait bonheur. La physionomie de l'homme exprimait cet intérêt calme et tendre qui devait servir de guide et d'appui à sa douce compagne. Sa femme le regardait avec confiance, comme le généreux souverain de son cœur et de sa vie. Ils s'avançaient ensemble, comme Adam et Ève dans le paradis, la main dans la main, hand in hand, et goûtaient tous les plaisirs de la vie. Exaltés par l'amour, ils dansaient avec une légèreté, avec une gaieté remarquable. Les airs vifs des Allemands de Suisse étaient encore animés par un tambour qui marquait la mesure avec force. Ils regardaient les compagnons de leur enfance. Ils s'entremêlaient à leur danse pour se montrer reconnaissants de la bienveillance qu'on leur témoignait. Mais on voyait bien qu'ils existaient seuls l'un pour l'autre dans l'univers. Ils se cherchaient, ils ne se perdaient pas de vue, et quand ils se retrouvaient, il semblait que la terre bondissait sous leurs pieds, et qu'ils étaient portés dans l'air sur les ailes d'un bonheur céleste. Quel spectacle pour Delphine! Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait vu de fête, et depuis un an surtout, elle n'avait vécu que dans la retraite et la douleur. Elle se sentit comme étourdie par tant de sensations diverses. Et, s'appuyant contre un arbre, ses regards étaient attachés sur cette femme, couronnée de fleurs, entourée des bras de son amie, et s'enivrant de la plus délicieuse coupe de la vie, de l'amour dans le mariage. Léonce était près de Delphine. Et quoiqu'il ne parlât point, Delphine sentait qu'il partageait toutes ses impressions. Il avait des regards si éloquents, une expression si touchante. « Léonce, lui dit-elle en lui montrant leur couple, ils sont heureux et moi, jamais, jamais. Il faut que je vous parle, s'écria Léonce, il le faut. Écoutez-moi ce soir, je le veux. » « Moi, répondit-elle, je le veux aussi. » Et ils s'éloignèrent en silence. Il était tard quand ils revinrent chez eux. Tout dormait dans la maison. Léonce, en se voyant seul avec Delphine, se jeta à ses pieds et lui avoua toutes les pensées qui l'avaient troublée. Elle voulut à l'instant lui rendre sa parole, retourner dans son couvent. Mais il lui exprima son amour avec tant de vérité, mais il chercha tellement à la convaincre que, dans la solitude avec elle, il serait parfaitement heureux, qu'elle consentit doucement à l'entendre développer ses projets. Il était parti de France avec un passeport. Il pouvait y retourner sans danger. Il lui proposa de la mener à sa terre de Mondeville, de l'épouser à son arrivée et de s'y fixer pour toujours. Quand elle s'inquiétait des sacrifices qu'il lui faisait en quittant ainsi le monde, il lui représentait qu'au milieu des événements cruels qui déchiraient son pays, il n'avait ni honneur ni sûreté que dans la solitude. Delphine revenait souvent à la crainte qui l'agitait le plus. Elle demandait à Léonce si, dans le fond de son cœur, il ne l'estimait pas moins pour le sacrifice même qu'elle était disposée à lui faire. « Je sais, lui dit-elle, que l'amour et l'amour seul pouvaient vaincre la répugnance que j'éprouve à sortir de ma retraite. Je ne m'explique pas précisément la nature du devoir qui pouvait m'y retenir, mais je sens que, de quelque manière que les vœux m'aient été arrachés, il eût été plus délicat de m'y soumettre. Je le sens, et mon irrésistible passion pour toi m'entraîne. Le reste du monde ne recevra pas cette excuse. Mais si tu l'acceptes, Léon, c'en est assez. Adieu. Si ton cœur se blasait sur l'excès même de mon affection, si ton imagination, qui ne peut rien souhaiter au-delà de ce que j'éprouve, se lassait de notre bonheur, alors tu réfléchirais sur ma faute. » Léon s'interrompit Delphine par les protestations les plus vives et les plus sincères. Dans ce moment, le jour commençait à paraître. Leur entretien avait duré toute la nuit sans qu'ils s'en fussent doutés. Les premiers rayons du soleil levant leur causèrent à tous les deux une grande émotion. Ils se sentirent un témoin et, s'avançant vers la fenêtre, ils se dirent qu'ils s'aimaient en présence du ciel. L'aspect de l'horizon était singulièrement majestueux. La nature se réveillait. Les êtres vivants dormaient encore. Léon et Delphine célébraient seuls la toute-puissance du Créateur. Léon, qui jusqu'alors s'était peu occupé d'idées religieuses, parut les saisir avec ardeur. Il voulait échapper aux hommes. Il cherchait un asile au fond de sa conscience. Car dans le sein de l'homme vertueux, dit Sénèque, je ne sais quel Dieu, mais il habite un Dieu. Tous les sentiments désintéressés, toutes les idées élevées, toutes les affections profondes ont un caractère religieux. Chacun entend à sa manière cette révélation de l'âme. Mais il n'existe aucune émotion tendre et généreuse qui ne nous fasse désirer un autre monde, une autre vie, une région plus pure où la vertu retrouve sa patrie. Léonce mit un genou en terre devant Delphine. Delphine se pencha sur lui, et ses cheveux couvrirent presque en entier la belle tête de son amant. Il se releva en la pressant sur son cœur, et, passant à son doigt un anneau gage de sa foi, il lui promit devant Dieu de la prendre pour épouse. « Être tout-puissant, s'écria Delphine, en élevant ses mains vers le ciel, je n'aurai jamais ni plus de bonheur, ni plus d'amour. Fermez mes yeux pour toujours. En ce moment, j'ai touché les bornes de l'existence. Pourquoi redescendre vers l'incertain avenir ? » ?»« Quel souhait ! » s'écria Léonce. « Arrête, arrête !» Et il tremblait, comme si les paroles de Delphine avaient pu attirer la mort sur sa tête. Pourquoi tremblait-il ? Pourquoi criait-il « Arrête !» Quand la pauvre Delphine formait ce vœu, peut-être était-il inspiré par son bon génie ? Le lendemain, Léonce et Delphine partirent pour Mondeville, et ce voyage fut encore très heureux. Il n'y a rien de si doux que de voyager avec ce qu'on aime. Le sentiment d'isolement que fait éprouver cette situation, ce sentiment pénible quand on est seul, est précisément ce qui rend les jouissances de l'affection plus délicieuses. Vous ne connaissez personne, personne ne vous connaît, vous traversez des pays nouveaux, votre curiosité est agréablement satisfaite, mais rien ne vous distrait de l'idée profonde qui remplit votre cœur. Vous aimez à sentir à chaque instant la différence de cet univers étranger qui passe devant vos yeux avec cet être si cher, si intime que vous avez près de vous, et qu'aucune affaire, aucune relation de société ne vous enlèvera, même pour un moment. La santé de Delphine était restée très faible depuis les peines qu'elle avait éprouvées à l'abbaye du Paradis. Les soins de Léonce pour elle étaient inépuisables. Elle était placée dans sa voiture entre Isaure et lui, et l'enfance et l'amour rivalisaient auprès d'elle de tendresse. Léonce était l'ange tutélaire de son amie, dans les plus petites comme dans les plus grandes circonstances. cette protection habituelle, le commencement de la vie domestique, plongeait Delphine dans la rêverie enchanteresse du bonheur. À chaque poste, elle s'étonnait que le chemin fût si court. Elle perdait du temps sous mille prétextes. Elle ralentissait le voyage, elle craignait d'arriver, soit qu'un pressentiment l'avertît qu'elle devait craindre le séjour de Mondeville, soit que dans un état heureux, le moindre changement fasse peur. Tout conspire, en nous-mêmes, comme au dehors de nous, contre ces impressions si délicates et si vives, qui satisfont à la fois l'imagination et le cœur, et le plus simple hasard suffit pour les détruire. Léonce fut reçue avec beaucoup d'affection et de respect dans la terre qu'avaient habité longtemps son père et sa mère. Mondeville était près de la Vendée où se rassemblaient les royalistes, et l'ancienne considération que l'on avait pour les seigneurs de terre s'y était conservée. On y détestait assez généralement tout ce qui tenait à la Révolution, et les opinions nouvelles n'y avaient point encore pénétré. Delphine s'enferma chez elle avec Isaure, pendant que Léonce vit les personnes auxquelles il avait affaire. Léonce, en arrivant, donna quelques jours à la vive douleur que lui causa la nouvelle de la mort de son respectable ami M. Barton. Il voulait le consulter, se confier à lui. Il n'était plus. À peine eut-il passé quelque temps à Mondeville que le bruit s'y répandit sourdement qu'il avait amené avec lui une religieuse et qu'il comptait l'épouser. Il ne sut point précisément quel effet produisit ce bruit. Personne ne l'en avertit, mais il vit une sorte de contrainte dans les manières de quelques vieux serviteurs de ses parents. Et comme il craignait d'en découvrir la cause, il n'interrogea personne. Mais chaque jour, il devenait plus sombre, et sous des prétextes divers, il éloignait souvent les occasions de s'entretenir avec Delphine. Delphine s'en aperçut promptement. La crainte d'être moins aimée l'emportant sur tout, l'empêchait de réfléchir sur ce que sa situation avait d'horrible. Mais néanmoins, un sentiment d'humiliation aiguisait quelquefois son désespoir, sa dépendance, son isolement, le sacrifice de sa réputation, de son existence, toutes ces preuves de dévouement qu'il lui avait été si doux de donner, lui causaient quelquefois non des regrets, mais une crainte délicate et naturelle. Elle sentait que Léonce se croirait obligé à l'épouser, et cette idée lui était affreuse. Enfin, un matin, l'altération de Delphine, dont la santé dépérissait chaque jour, frappa tellement Léonce qu'il fut tout à coup saisi par un sentiment de terreur et de remords. Et après lui avoir prodigué les expressions d'amour les plus tendres, il sortit de chez elle, résolu d'aller à l'instant chez le maire, pour déclarer l'intention où il était de se marier et de choisir le jour où il conduirait Delphine à l'hôtel. Au moment où il arriva, l'on recevait la nouvelle des massacres qui avaient eu lieu le 2 septembre à Paris, et toutes les femmes s'étaient précipitées dans la salle de l'hôtel de ville pour en apprendre les détails. Plusieurs d'entre elles connaissaient quelques-uns de ceux qui avaient péri, et tous les esprits étaient très agités par cette horrible nouvelle. Léon s'était tellement troublé de ce qu'il allait faire qu'il ne s'informa point du sujet de la rumeur générale, et s'avançant rapidement vers le maire, il lui annonça, avec une voix d'autant plus haute et d'autant plus ferme, qu'il voulait cacher son agitation intérieure, la résolution où il était d'épouser Madame d'Albémar. Le maire, qui avait été autrefois attaché à la famille de Mondeville, baissa les yeux, soupira, et écrivit en silence le nom de Léonce et celui de Madame d'Albémar. À l'instant, un murmure retentit dans toute la salle, et Léonce entendit plusieurs voix qui disaient « Quoi ? Notre jeune seigneur va épouser une religieuse qui fuit de son couvent ? Quoi ? Il déshonore ainsi son nom ? Ah, que diraient ses parents s'ils vivaient encore ? Aucun homme sur la terre ne pouvait éprouver une douleur égale à celle que ces paroles causèrent à Léonce. Cependant, il fit effort sur lui pour marcher à travers la foule avec sa contenance accoutumée. On se tut en le voyant passer, mais il aperçut sur tous les visages cette désapprobation muette, tourment de ceux qui ont besoin de l'estime des autres. En sortant, il trouva, rangés devant la porte de l'hôtel de ville, quelques soldats qui avaient autrefois servi dans son régiment. Ils lui présentèrent les armes, mais l'instant d'après, par un mouvement tout à fait irréfléchi, ils baissèrent tristement leurs fusils devant lui, comme ils ont coutume de le faire devant des funérailles illustres. Léonce, frappé de cette action, leur dit « Vous avez raison, mes amis. Ce n'est plus moi, c'est à peine mon ombre. Je vous remercie de me pleurer. » Et il s'éloigna rapidement. Passant devant l'église, il vit ouverte la porte qui conduisait à la chapelle où tous ses ancêtres avaient été ensevelis. Il recula d'abord en l'apercevant. Puis, triomphant de sa première impression, il entra dans la chapelle pour épuiser toutes les douleurs dans un même jour. La première pierre qu'il aperçut était celle qui couvrait la tombe de son respectable ami Barton. Il en fut à peine ému. « Je suis bien aise, dit-il tout haut, que tu ne sois pas témoin de cela. » Et il se reposa quelques moments sur cette pierre. Il vit dans le fond de la chapelle un tombeau plus remarquable que tous les autres, et qui n'y était point encore lorsqu'il avait quitté Mondeville. Il frémit à cet aspect, sans pouvoir comprendre lui-même d'où venait son effroi. Dans ce moment, un vieil officier qui avait servi sous son père entra dans l'église, le reconnut et se jeta à ses pieds. « Que faites-vous ? S'écria Léonce, que faites-vous ? Je suis arrivé hier, lui dit-il, de la campagne où je vis, pour vous voir, pour embrasser encore une fois avant de mourir le fils de mon général. J'ai appris, faut-il le croire, que vous, noble jeune homme, que vous, héritier d'un sang illustre, vous alliez faire une action déshonorante. Je ne sais pas ce qu'on peut dire pour excuser votre résolution, mais je sais que vous n'oserez plus regarder sans rougir les anciens amis de vos parents, et je viens vous supplier, pendant qu'il en est temps encore, d'abjurer cette erreur d'un jour que démente votre caractère et votre vie. « Laissez-moi, s'écria Léonce, laissez-moi. Vous ne savez pas. « Oserez-vous me refuser, dit le vieillard en se relevant, si j'embrasse ce tombeau en suppliant ? » Et il alla s'appuyer les mains jointes sur le marbre noir qui était placé au fond de la chapelle. « Quel est ce tombeau ? S'écria Léonce. « Quel est-il ? » « C'est celui de votre mère, répondit le vieil officier. Elle m'a ordonné d'apporter ici son cœur. Je suis venu du fond de l'Espagne. Avec ses précieux restes, elle m'a recommandé de les déposer dans cette chapelle pour reposer près de vous quand le temps vous aurait frappé à votre tour. Mais si votre conduite flétrit la gloire de votre famille, au nom de votre mère, si noble, si fière, si délicate sur l'honneur, je vous défends de placer votre tombe auprès de la sienne. Je bannis votre cendre loin de cendre de vos aïeux. Pendant qu'il parlait, Léon se fit quelques pas en chancelant pour arriver jusqu'au tombeau de sa mère. Mais l'excès de son émotion surpassant enfin ses forces, il tomba comme mort sur le pavé de l'église. On le transporta chez lui et la malheureuse Delphine le vit arriver dans cet état. Comme elle se jetait sur lui pour l'embrasser et mourir avec lui, l'impitoyable vieillard qui l'avait suivi lui dit « Madame, c'est vous qui plongez Monsieur de Mondeville dans le désespoir. C'est le combat de l'amour et de l'honneur. C'est l'effroi que lui cause la honte à laquelle vous le condamnez en vous épousant qui causera sa mort. De grâce, éloignez-vous. Ne sentez-vous pas que vous le devez à vous-même ? » Il n'en fallait pas tant pour anéantir Delphine, et malgré son inquiétude mortelle pour Léonce, elle tomba sur une chaise derrière le lit où on l'avait posée et ne prononça pas un seul mot. Léon, s'en revenant à lui, ne la vit pas. Il aperçut l'officier dont les paroles avaient produit sur lui une impression si terrible qu'il était encore dans le délire. « Malheureux, s'écria-t-il, vous voulez que je lui plonge un poignard dans le sein, que je l'abandonne quand elle a tout sacrifié pour moi, quand elle sera seule dans cet univers, quand elle mourra, et moi, qu'est-ce que je veux? Le déshonneur, la honte? Opinion, exécrable fantôme, me poursuivras-tu jusque dans la retraite, jusqu'auprès de cet ange qui m'aime? Non, ce n'est pas l'ombre de ma mère, homme cruel, que vous avez fait parler. Non, ce n'est pas elle, c'est l'opinion. C'est son inflexible puissance que vous avez armée contre moi. S'il est mort, pense encore à nous, c'est avec des sentiments plus doux, plus purs, plus dégagés des misérables préjugés des hommes. Mais moi, comment ferais-je pour supporter la honte, ces soldats, ces femmes, ces tombeaux? Tuez-moi, s'écria-t-il en regardant le vieillard qui se taisait. Tuez-moi. Et il s'élança pour saisir son épée. Dans ce moment, un cri de Delphine la fit reconnaître. Il comprit qu'elle avait tout entendu. Il voulut s'approcher d'elle, la prendre dans ses bras. Un froid mortel l'avait déjà saisie. Elle ne pouvait plus ni parler, ni faire un mouvement. Elle n'était pas tombée sans connaissance, mais son état était plus effrayant. Encore immobile, le regard fixe, on aurait dit qu'elle se relevait du cercueil sans avoir repris la vie. Léon se la porta dans sa chambre et renvoya avec fureur loin du château tous ceux dont la vue pouvait retracer à Delphine ce qui venait de se passer. Pendant 10 jours et 10 nuits, il ne la quitta pas un instant. Mais tous ses soins furent inutiles. Le poignard était entré dans le cœur et de ses coups jamais on ne revient. Delphine, cependant, recouvra la parole. Et quand, examinant son état, elle se crut certaine que sa maladie était mortelle, elle fut plus calme. Lorsque Léon se vit combien l'état de Delphine était dangereux, il tomba dans le plus sombre désespoir, et se reprochant avec amertume d'être la cause de sa mort, irrité contre son propre caractère, il conçut pour lui-même un sentiment de haine qui suffit à lui seul pour rendre la vie odieuse, et il résolut fermement de ne pas survivre à son amie. Elle s'aperçut de ce dessein. Des paroles échappées à Léonce l'en informèrent, et surtout une résignation triste et sombre qui n'était pas dans le caractère de son amie. Quand le médecin voulait lui donner quelque espérance sur l'état de Delphine, il la repoussait et disait presque froidement devant elle qu'il était certain qu'elle ne pouvait être sauvée. « Mais, généreuse Delphine, ajoutait-il, ton cœur a tant de bonté que tu consentiras sans peine à ce départ de la vie avec le coupable ami qui t'a percé le cœur. » Quelquefois, cependant, il perdait entièrement cette sorte de calme qui lui coûtait tant d'efforts. Et considérant son ami, que la douleur avait déjà si fort changé, il se jetait par terre avec des convulsions de désespoir. « C'est moi, s'écriait-il, c'est moi qui prive le monde de cette douce et noble créature. C'est moi qui ai empoisonné sa jeunesse, c'est moi qui la traîne dans le tombeau. Qu'importe que je l'y suive, moi si violent, si amer, si irritable, c'est du repos pour moi que la mort. Mais elle, qui n'a jamais éprouvé que des sentiments d'affection et de bonté, pourquoi faut-il qu'elle meure désespérée? Innocent objet, s'écria-t-il en se jetant aux pieds de son lit, tu me regardes encore avec une expression si touchante. Tu sembles me demander de vivre. Hélas, je ne puis te sauver. Je t'ai déchiré le cœur, mais je n'ai pas la puissance de te soulager. Tu sais bien que le mal est irréparable. Insensé que j'étais. J'ai foulé sous mes pas ta destinée, et je voudrais te relever maintenant, pauvre fleur que j'ai flétrie. Mais tu retombes, et l'inflexible nature me punit. Ah, Delphine, si la mort ne dépendait pas de nous, si je ne pouvais pas te suivre, quel supplice, quel tourment égalerait tout ce qui se passe dans mon sein. Mais Delphine, entends-moi. Je ne te quitte pas. Je suis là, près de toi. Je t'accompagne dans la mort, dans ses mystères. Ton ami sera près de toi. Delphine, Delphine. Il l'appelait. Son ami voulait répondre, mais sa faiblesse ne lui permettant pas de parler longtemps, elle lui dit qu'elle désirait d'être seule. Et quand il l'eut laissée aux soins de ses femmes et d'Isaure, elle essaya de lui écrire et lui fit dire plusieurs fois, lorsqu'il voulait rentrer chez elle, qu'elle lui demandait encore quelques instants pour achever de lui faire connaître ses derniers sentiments et ses dernières volontés. Voici ce qui fut remis de sa part à M. de Mondeville.